Il y a quelqu'un qui dit « Je suis bien déçu de votre commentaire de vendre aux plus offrants. Ça enlève l'engagement ou d'avoir sa parole. » Non, il faut avoir de la parole, effectivement. Si quelqu'un te dit « Je viens ce soir » puis que quelqu'un t'offre quelque chose d'intéressant en après-midi, t'attends au soir puis tu dis à celui de l'après-midi « Garde, s'il le prend soir, il passe avant toi. »
Je me suis mal exprimé là-dessus, là, ça c'est vrai. Mais tu sais, il y a quelque part, il faut être conscient que si tu vends à 100$, mettons, puis quelqu'un t'en offre 200, ben, tu vas le vendre à celui qui t'offre 200. Tu vas pas le dire, non, il y a quelqu'un qui. Je le garde à 100 au cas où.
Ben, si tu l'as promis, moi.
Oui, il y a ça.
Bon, il faut avoir. Je pense qu'il faut avoir de la parole.
Oui.
Faut vraiment avoir de la parole. Est-ce qu'on a notre invité en ligne?
Oui, absolument.
Il s'est publié au cours des derniers jours. Enfin, je l'ai vu passer au cours des derniers jours. Une espèce de manuel d'une trentaine de pages qui s'appelle « Le guide juridique du droit des animaux ». On a au téléphone Maître Sarah Isabelle Avril, qui est avocate en droit animalier. Je savais même pas que ça existait, le droit animalier. Bonjour, Madame Avril.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, ça va très bien, merci.
C'est destiné à qui, votre guide juridique du droit des animaux?
Eh bien, on a plusieurs destinataires de ce guide. On a tout d'abord les tuteurs, donc les propriétaires de chiens et de chats, les locataires et locataires de logements, les refuges pour les êtres animaux, les OSBL spécialisés dans la protection des êtres animaux, les animaleries, les adoptants qui consultent les réseaux sociaux, donc les petites annonces en ligne, ainsi que toute personne qui a un intérêt à ce que les lois sur le bien-être des êtres animaux soient correctement appliquées au Québec.
Parce qu'on est en retard au Québec sur le... Parce qu'il me semble qu'il y a une loi qui a été adoptée il y a quelques années disant qu'on n'a pas le droit de maltraiter un animal, là.
Oui, bien... En fait, c'est ça pour vous donner un peu le contexte, là, puis vous faire connaître l'état actuel du droit animalier au Québec. C'est qu'en décembre 2015, il y a un nouveau statut juridique de l'être animal qui a été reconnu. Et ça, à la suite de l'adoption à l'unanimité de l'Assemblée nationale du Québec de l'article 890.1 du Code civil du Québec. Et la loi dont vous parliez, c'est la loi sur le bien-être et la sécurité des êtres animaux. Donc, depuis lors, l'être animal n'est plus un bien. Donc, c'est plus une chose comme une chaise. Il est un être doué de sensibilité, de sentience. Aujourd'hui, le terme sentience est ajouté dans le dictionnaire Larousse.
OK. La sentience?
Oui, la sentience, c'est plus large que la sensibilité. Donc, ça réfère au fait que les êtres animaux peuvent ressentir des choses, contrairement à un bien comme une chaise. Donc, ils peuvent ressentir du contentement, okay, de la douleur, du stress, de l'anxiété. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le terme sentience, qui est beaucoup plus approprié que sensibilité.
Okay.
Et l'être animal possède des impératifs biologiques, donc des besoins essentiels. Donc, tout ça, quand on parle de besoins essentiels, on parle de nature physique, physiologique et comportementale, comme se nourrir, boire de l'eau, posséder un abri ou même socialiser avec des êtres humains et d'autres êtres animaux.
Ça m'a surpris dans votre document, vous semblez dire qu'on n'a plus le droit de garder un animal exclusivement dehors.
Oui, exactement. Et ça, justement, c'est un de ses besoins essentiels, c'est de posséder un abri qui est convenable à sa grandeur, qui aussi lui permet de le protéger de la chaleur.
Une niche, c'est dehors, mais c'est considéré comme à l'intérieur, c'est ça?
Non. Il y a un hébergement, il y a certains types d'hébergements qui sont acceptés, mais c'est interdit à l'année longue de laisser votre chien ou votre chaton à l'extérieur sans possibilité de pouvoir entrer à l'intérieur ou d'avoir un abri vraiment convenable.
Okay.
Accéder à l'eau, de la nourriture. Donc, il y a vraiment plusieurs conditions au fait de pouvoir héberger, mais laisser son être animal plusieurs heures de temps à l'extérieur de chez soi.
OK, parce que moi, j'ai déjà eu un genre de malamute. Je peux vous dire que quand je le rentrais, il était malheureux. Il demandait d'aller dehors au plus sacrant. Il se roulait en boule dans la neige par moins 30, puis lui, il était heureux, là.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait normal. C'est justement une des obligations qu'on a, c'est vraiment de socialiser notre être animal, mais aussi de l'amener à l'extérieur, d'avoir ses promenades pour qu'il puisse justement adopter son comportement naturel. Donc, c'est tout à fait normal, mais vous pouvez pas le laisser dormir pendant 12 heures à l'extérieur pendant qu'il fait moins 30 dehors.
Dans le fond, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que c'est pas illégal de le laisser toujours dehors, l'animal. Ce qui est illégal, c'est de lui empêcher de rentrer en dedans quand il en a besoin.
Oui, mais également de le laisser tout le temps dehors. Sinon, quel est l'intérêt d'avoir un compagnon avec nous? Je ne sais pas si vous comprenez l'être ouais, animal.
Je peux aller jouer, moi, dehors.
Ben oui, mais vous aussi, vous n'allez pas rester dehors. Vous avez un abri confortable, vous avez toujours accès à de la nourriture, à de ouais, l'eau.
C'est ça.
Comprenez?
OK, parce que je connais des propriétaires de chiens de traîneau. Leurs animaux sont tout le temps dehors, mais ils ont une niche. Ils peuvent se mettre à l'abri quand il fait pas beau, là. Mais ces animaux-là seraient bien malheureux dans un salon.
Oui, à longueur de journée. N'importe quel être animal enfermé dans un salon aussi, c'est pas acceptable, vous comprenez? Justement, il y a des besoins essentiels. On a des obligations envers nos êtres animaux de compagnie, notre chien, notre chat, des devoirs, des responsabilités. Donc, ça, c'est tous des sujets qu'on aborde dans le guide juridique.
La loi nous oblige aussi à donner des soins à l'animal. Est-ce que la loi prévoit à quel moment ces soins deviennent trop coûteux puis que j'ai le droit de l'euthanasier, de le faire euthanasier?
Non, justement. Puis, on a justement publié un article sur le site Internet du DAC à ce sujet. On a, quand on adopte un être animal, il faut s'attendre qu'on ait des obligations envers lui, des responsabilités. Ça peut coûter de 3 à 4 000 $ par année. Pour les frais concernant les soins envers notre chien ou notre chat. Donc, non.
À un moment donné, ça, tu sais, les animaux, ils meurent, là.
Oui, ben exactement. Vous avez une obligation de soins envers votre être animal. Donc, si jamais il est souffrant, il est malade, okay. Vous avez le devoir de lui prodiguer ces soins-là.
OK, mais quand ces soins-là deviennent trop coûteux. Est-ce oui. qu'on prévoit un moment où j'ai le droit de dire, bon, ben regarde, il y a 12 ans, lui réopérer les hanches, ça coûterait 10 000 $, j'arrête, puis je le fais euthanasier. Est-ce que ça existe dans la loi, ce droit-là?
Non, mais justement, vous devez toujours agir dans l'intérêt de votre être animal.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est assurer toujours son bien-être et sa sécurité. Si votre être animal, il est souffrant, il n'y a aucune possibilité d'apaiser ses souffrances, le moyen n'est pas possible, eh bien, là, le vétérinaire va vous demander, à votre avis, est-ce qu'il est dans l'intérêt de votre être animal pour son bien-être, de l'euthanasie ou non. Mais en tant que tel, dans la loi, il n'y a rien qui prévoit que si vous trouvez que la procédure est trop coûteuse, vous avez le droit de faire euthanasier votre chien. Vous ne pouvez pas.
Oui, mais c'est parce que les vétérinaires, eux autres, ils ont intérêt à me toffer le plus longtemps possible, comprenez-vous?
vous pouvez répéter, non, je n'ai pas compris. À vous toffer.
Le vétérinaire, il a intérêt à me facturer le plus possible. Donc, à me demander une dernière radiographie, une dernière échographie, une dernière scie avant d'accepter l'euthanasie, là.
Non. Les vétérinaires ont une déontologie. Ils ont certains devoirs envers vous, de vous informer, tout ce qui est par rapport à l'état de santé de votre être animal, de vous donner toutes les options possibles selon les procédures à faire et tout. Mais eux, leur intérêt, ce n'est pas à faire de l'argent. Et ça, c'est vraiment un préjugé commun là, qu'on entend souvent, mais ce n'est pas le cas. Les vétérinaires ont l'intérêt de l'être animal.
Je regardais votre guide, surtout au début, là, quand on parle des tables de référence, où est-ce qu'on dit les nouveaux termes versus les anciens termes. Il y a quelque chose comme 90-95% des termes de la loi qui n'existaient juste pas auparavant. Par exemple, absence de signes vitaux, on parlait pas de ça dans l'ancienne loi. Anxiété, on parlait de stress. Enrichissement environnemental, ça existait pas. Est-ce que, à quel point vous considérez que la loi a tellement changé que ce guide-là était nécessaire?
Eh bien, tout d'abord, nous, notre mission au DAC, c'est vraiment d'éduquer le citoyen. Donc, on a un devoir d'éducation envers le public, de donner de l'information juridique. Donc, justement, nous, ce qu'on voulait, c'est de renseigner les citoyens du Québec sur leurs droits, leurs obligations, leurs responsabilités envers les chats et les chiens, en mettant à leur disposition un document de vulgarisation juridique. Donc, on donne vraiment l'information de qualité qui est diffusée dans un langage langage simple, clair et accessible. Puis justement, oui, il y a un cadre juridique qui est tout à fait nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2015. Il y a un nouveau statut juridique de l'être animal. Puis, il y a eu l'émergence d'un nouveau paradigme juridique en droit animalier. Donc, de ne plus considérer l'être animal qui est un bien meuble, c'est évident que la terminologie qui lui est adjacente a changé elle aussi. Comprenez? Donc, vu que ce n'est plus une chaise, on doit adopter les termes qui vont ensemble avec le fait que c'est un être sensible, qu'il y a des impératifs biologiques. Donc, tout ce qui est détresse, les différents termes là, que vous m'aviez nommés, absence de signes vitaux, là, on fait référence, c'est un être. Donc, il y a un certain système nerveux, il y a des émotions, des sentiments, il peut avoir des douleurs aiguës, tandis qu'une chaise, ce n'est pas le cas, vous comprenez?
Maître Avril, dans votre document, il y a une page qui est vraiment bien faite, où vous avez perdu votre chat et votre chien, et là, il y a ce qu'il faut faire dans le bon ordre. Vous avez trouvé un chat et un chien, c'est ce qu'il faut faire dans le bon ordre. Ça devrait être distribué dans les journaux. Dans les journaux municipaux?
Ben oui, ben merci, parce que c'est une initiative du DAC. C'est moi, d'ailleurs, qui ai fait ce schéma. Puis, un certain code de couleur, ça peut paraître banal, mais pour essayer de voir la différence. Donc, quand on a trouvé un chat, OK, la première étape, c'est ici, mais on peut voir que si vous avez perdu votre chat, lorsque vous n'avez pas retrouver à l'aide d'une médaille ou la micropuce, là, personne ne fait un signalement, eh bien, ça se peut que, justement, un citoyen l'héberge.
Ouais. Donc, les réseaux sociaux arrivent plus loin dans la liste. Souvent, c'est le réflexe, c'est le premier.
Oui, c'est vrai, ça peut être le réflexe de plusieurs personnes, mais on a des nouvelles obligations. Quand on adopte un chiot, il y a la micropuce qui est obligatoire, la médaille, pour retracer votre être animal. Donc ça, c'est des procédés qui sont impératifs de faire d'abord. C'est super de retrouver. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Là, votre document s'adresse essentiellement aux propriétaires de chats et de chiens.
Oui.
Mais il y a aussi toutes sortes d'autres animaux. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'étirer cette loi-là puis de commencer à considérer que les poules, les lapins, les animaux de ferme doivent suivre le même chemin?
Non, parce qu'on a vraiment un avertissement dès le début du guide qu'il s'applique strictement aux chiens et aux chats. C'est aussi le législateur qui a fait un certain choix dans la loi d'avoir un cadre juridique beaucoup plus étoffé pour les chiens et les chats, parce qu'il y a justement un règlement dédié entièrement à la sécurité et le bien-être des chats et des chiens au Québec. Donc, on voit qu'il y a eu un intérêt qui était plus présent de vraiment bien spécifier et définir le cadre juridique des chats et des chiens au Québec. Là, le cadre juridique peut s'étirer à d'autres êtres animaux, mais il faut vraiment aller dans la loi pour regarder quelles sont les exceptions, les exemptions. Là, vous parliez d'une poule ou d'un cochon. Là, dans la loi, c'est vraiment expliquer quel cadre s'applique. Donc là, c'est des règles généralement reconnues.
OK. Parce que moi, je veux continuer à manger du homard.
Come on.
C'est ça. C'est un autre cadre juridique. C'est pas des règles qui ont été codifiées en tant que telles des êtres animaux qui sont utilisés pour la consommation. C'est quelque chose d'autre.
Donc, il n'y a pas de danger que ce que l'on prévoit pour les chiens et les chats s'étire un jour, puis que finalement, on puisse tout simplement plus manger d'animaux.
Ah, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas prévoir. Le futur, on ne sait pas où ça peut se rendre, mais le fait justement que le législateur ait bien dit dans la loi que l'être animal n'est plus un bien, et là, on parle de tous les êtres animaux, ce n'est pas juste les chats et les chiens. Tout être animal n'est plus un bien meuble. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Donc là, on vient reconnaître la vraie nature d'un être animal.
On le trouve où, votre guide juridique?
Oui. Pardon?
On le trouve.
Oui, c'est publié.
C'est publié.
Sur le site du DAC. donc la communauté droit animalier Québec.
Okay.
On a un site Facebook. Donc, sur le site, il y a aussi une publication. Vous pouvez cliquer dessus et ça va vous rediriger sur le site Internet du DAC. Et oui.
Donc, sur le DAC, D-A-Q, comme Danemark, Algérie, Québec, c'est ça?
Oui, Droit Animalier Québec. C'est la communauté Droit D, Animalier A, Québec, donc Q.
Merci beaucoup, Mme Avril.
Merci à vous.
Madame Sarah, Maître Sarah Isabelle Avril, avocate en droit animalier. La loi a changé il y a 5 ans à peu près.
Oui.
En fait, qui va lire un texte de loi? Je trouve que le document qui a été fait, qu'on soit d'accord ou pas avec le changement de loi, là, le document qui a été fait permet de bien comprendre jusqu'où va la loi.
Il est le fun à lire.
Puis c'est simple, c'est écrit en langage clair.
Il y a des petites images de pitou.
On peut ne pas être d'accord avec certains concepts, mais c'est un document d'information qui est intéressant. Puis le chiffre qu'elle donne, c'est si vous adoptez un animal, préparez-vous à ce qu'il vous coûte entre 3 et 4 000 $ par année.
Oui.
Tu sais, c'est ça aussi, là, il faut se rendre compte que maintenant, il faut se préparer à ce genre de dépenses quand on adopte un animal. Je ferai une exception pour la campagne, parce que quand tu adoptes un animal, par exemple comme un chat à la campagne, mm-hmm. ça n'a pas la même utilité. Le chat, il sert à tenir les rongeurs à l'écart.
Je pense qu'il y a une différence dans l'interprétation aussi entre ce qu'on appelle un animal domestique et un animal régulier. Puis à la ferme, les chats deviennent plus animaux sauvages que animaux domestiqués, à la quantité qu'il y a, puis au fait qu'ils aident à réguler les robes, la peste un peu, là. J'aurais plus tendance à penser que dans un cas comme celui-là, les chats, même si on est habitué de les trouver bien cute puis bien tout, là, à la ferme, c'est pas la même vision de l'animal.
Non, mais sauf qu'en ville, là, il faut s'attendre à ça. Puis il y a quelqu'un qui dit 3000 $ par année, maudite folie. Attendez, parce que effectivement, à partir du moment où la loi vous fait l'obligation de soigner votre animal, puis de lui donner les vaccins, puis etc., ça va rapidement monter.
Ouais.
Ça va rapidement monter. Puis je dis pas que c'est raisonnable. Je dis juste que c'est ça maintenant la loi. C'est pour ça que je lui demandais, y a-t-il un moment donné où j'ai le droit de dire c'est trop cher, je l'euthanasie? La loi ne prévoit pas le moment où c'est trop cher, je l'euthanasie.
Puis je comprends son point de vue à elle qui dit qu'à quelque part, c'est toi qui dois déterminer, puis que tu sais, ça arrivera jamais, on s'entend, mais que dans les faits, tu devrais être capable de prouver que tu as pris la meilleure décision pour l'animal. C'est-à-dire que s'il était rendu au point où il souffrait tout le temps,
ouais.
Ben là, c'était justifié l'euthanasie.
Mais tu vois, ça m'est arrivé de voir quelqu'un, par exemple, me dire, bon, ben, mon chat s'est brisé une jambe, là, une patte, bon. Le vétérinaire facture, tu sais, il faut mettre une plaque, etc. Puis là, ça va coûter 3, 4, 5 000 $. La loi me fait l'obligation de le faire.
D'un autre côté,
est-ce que... S'il est capable de courir après.
Ouais, mais c'est-tu justifié de faire euthanasier un chat parce que c'est cassé une jambe?
Ben oui.
Ben, c'est parce que c'est cher.
C'est à 5 000 $ dans certaines familles, c'est parce que tu vas oublier de nourrir tes enfants.
Puis honnêtement, là, j'ai de la misère à me prononcer là-dessus parce que je comprends votre argument. Mais d'un autre côté, tu tues pas un chat parce qu'il s'est cassé une patte.
Oui,
mon chat s'est fait tirer dans la jambe et on a dû le faire opérer. On a accepté de le faire. On a tous donné de l'argent à les enfants. Ça avait coûté 5 000 $.
Oui.
Puis en plus, le chat, après, il était plus le même. Il avait été traumatisé. Il voulait plus rentrer dans la maison. Il avait peur. Il voulait fuir.
Quand un animal est blessé, autrefois, effectivement, on réglait ça avec hashtag BDC, là, j'ose plus le dire, là, mais hashtag une balle dans le cachou. Bon. Bon. Mais maintenant, la loi te l'interdit et la loi ne dit pas à quel moment ça devient pas raisonnable de le soigner.
Parce que
les vétérinaires, écoute, c'est comme la médecine, le vétérinaire. Là. Ils vont toujours trouver une façon de sauver un animal.
C'est vrai.
D'un côté, je comprends le point à François de dire que on paye, tu sais, on veut cet animal-là. Fait que s'il peut survivre de sa blessure, c'est un peu notre responsabilité de payer. Je comprends que c'est cher, mais si. Je sais pas, on a vraiment des assurances maladie pour les chats.
Ben, ça existe, là.
Oui, mais des vraies grosses assurances qui couvrent tout, là.
C'est juste que ton 3000 $ par année vient de monter à 5000 assez vite.
C'est ça. Parce que, puis n'oublie pas qu'un assureur, c'est quelqu'un. Un assureur, c'est quelqu'un qui te prête un parapluie quand il fait beau et qui te le retire quand il mouille. Et 13h50.